Il vient d'être 17h à Niamey et partout au Niger. Vous suivez en direct l'édition en français sur nos radios partenaires. Au micro, je suis Kaït Abdraman. Les titres. Dans une note en date du 22 janvier 2024, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest autorise à titre temporaire les établissements de crédit à maintenir dans la catégorie des créances saines sur exposition sur les titres publics de l'État du Niger. Les détails à suivre. Le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger a animé un point de presse aujourd'hui sur les droits des journalistes des organes privés. Vous entendrez les propos du secrétaire général du SINAPEN dans ce journal. La partie magazine de ce soir s'intéresse au changement climatique et le terrorisme au Sahel. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Dans une note en date du 22 janvier 2024, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest autorise à titre temporaire les établissements de crédit à maintenir dans la catégorie des créances saines leurs expositions sur les titres publics de l'État du Niger. Ces encours devront être enregistrés dans un compte spécifique à l'intérieur de la catégorie des créances saines. Hama Amadou, expert économiste, explique le sens de cette correspondance au micro de Al-Amin Ouachar.
L'agence de notation Moody's. Moody's est la deuxième agence de notation souveraine dans le monde. Moody's, donc le 22 janvier 2024, a fait part dans une note d'analyse de la situation actuelle et de ses implications. Moody's donc suggéré que la situation des défauts de paiement de l'État du Niger, qu'elle a estimé à 485 millions de dollars, avait des conséquences sur toute la sous-région Yomo. Le même jour, le gouverneur de la BCAO, à mon point de vue, a dans l'urgence donné aux banques commerciales leur demandant de considérer les titres souverains impayés de notre pays comme sains et de ne pas les provisionner conformément à ce que dit la réglementation bancaire. Il est vrai qu'en droit, les États ne peuvent être déclarés en cessation de paiement, quel que soit.
Ce 25 janvier 2024, à partir de 0 heure, prend effet l'ordonnance 2023/18 du 21 décembre 2023 portant prélèvement de 10 francs CFA sur les appels téléphoniques et forfaits Internet à travers les compagnies de téléphonie mobile Airtel, Move, Niger Telecom et Zamani. Cela afin de mobiliser des ressources financières pour renforcer les capacités des FDS dans leur mission de défense de la patrie. C'est le vice-président du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui l'a annoncé hier dans un point de presse à Niamey. Les prélèvements seront opérés à partir de 12 francs sur le crédit dont dispose le client sur son compte principal et les souscriptions supérieures au forfait de 200 francs CFA, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Mettre les journalistes des organes privés dans leurs droits, c'est le thème central du point de presse animé aujourd'hui par le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger. Selon le secrétaire du SINAPEN, la mauvaise gestion de certains médias privés en est la principale cause. Souleymane Ousmane explique au micro de Hassan Nourou Abdrahman.
Le SINAPEN élargit avec tous les hommes et femmes des médias privés de la presse ont donc tenu une déclaration de presse pour justement faire cas de la situation dans laquelle végète l'ensemble de tous les acteurs de la presse privée dans une situation de précarité et alarmante depuis pratiquement quelques années. Puisqu'aujourd'hui, comme vous voyez, pratiquement tous les médias ont des arriérés de salaire allant de un mois jusqu'à plus d'un an. Par rapport aux autorités de la transition, nous les appelons de voir un œil regardant par rapport à toutes ces situations afin d'accompagner ces entreprises également pour qu'elles puissent accomplir justement leur mission par rapport à toutes ces situations. Dorénavant, le fonds d'aide de la presse qui le met à la disposition de ses organes, vraiment de ne plus acheter le matériel, c'est justement le mettre à l'actif.
Autre aspect de ce journal, les autorités régionales de l'éducation d'Agadez s'inquiètent par rapport à la prise en charge éducative des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. Ils sont environ 1500 enfants repartis dans la région. Malgré les efforts du gouvernement nigérien et ses partenaires, leur situation est un défi majeur pour les responsables de l'éducation. Umaru Hassa, directeur régional de l'éducation, explique au micro d'Anisika.
L'aspect qui est aussi crucial de la région d'Agadez par rapport à l'éducation, ce sont ces réfugiés et ces migrants que nous avons en grande quantité dans la ville. Quand vous prenez Assamak aujourd'hui, nous avons environ 1 million d'enfants de réfugiés que nous sommes en train de prendre en charge. Dans la ville d'Agadez, quand vous allez à Douadou également, c'est environ 500 enfants. Et il y a beaucoup qui sont répartis dans la région comme ça. Donc ça aussi, c'est un défi par rapport à la migration et aux réfugiés que nous avons dans la région. C'est aussi ces enfants-là, ils ont droit à l'éducation. Nous, l'État du Niger les prend également en charge, bien sûr avec l'appui de certains de leurs partenaires. Le premier aspect, c'est les enfants qui ne parlent même pas notre langue. Il faut leur trouver des enseignants et nous allons les enseigner en français. Ces enfants-là, ils sont particuliers. Pour certains enfants, c'est des enfants qui ont fui la guerre. Ils ont vu des atrocités. Donc leur prise en charge en termes d'éducation même, leur prise en charge psychosociale est différente de nos enfants qui sont ici. C'est ça la difficulté, le vrai défi.
Hors de nos frontières, en début de la semaine, Studio Kalangu s'est rendu à Kai et Kuruteko, des localités situées à plus de 400 km au nord-ouest de Bamako, pour s'entretenir avec ses auditeurs nigériens. Pour la première fois, les ressortissants nigériens à Kai s'entretiennent avec un média nigérien de leurs difficultés. On les écoute au micro de notre reporter Tarnan Foudé Hamed.
Tout le temps, moi, j'écoute Studio Kalangu, même sur mon téléphone, si ça est Studio Kalangu. J'écoute, vous parlez en Jarma, vous parlez en Touareg, vous parlez en Hausa.
À vrai dire, je n'ai jamais écouté Studio Kalangu, mais j'ai eu les échos de cet organe. Et pour votre présence ici, nous vous remercions infiniment.
Effectivement, nous écoutons le Studio Kalangu. Il diffuse ses programmes le soir à partir de 17h et la journée à partir de 11h. Ici, nous l'écoutons à travers les réseaux sociaux, tels que WhatsApp. Certains amis partagent avec nous les infos de Kalangu par WhatsApp après les avoir écoutés.
Voir un compatriote journaliste venir ici et nous demander les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et lui répondre « Vraiment, vous êtes le premier ». Maintenant, tout ce que nous attendons du Studio Kalangu, c'est de nous contacter de temps en temps, car il y a beaucoup d'entre nous qui ont des difficultés.
Sujet sécurité, récemment, des menaces et attaques ont été observées dans la région de Diffa. Cette recrudescence de l'insécurité inquiète les populations de la région qui souhaitent plus revivre le calvaire passé. C'est dans ce contexte que Mahamang Korondi, acteur de la société civile à Diffa, appelle la population à plus de vigilance. Il est au micro de Guidi Abdrahman.
Manque d'informations, vraiment. Si la population informe les autorités, plus précisément les FDS, vraiment, elles sont prêtes, elles sont là pour nous. Maintenant, je tire l'attention de la population, vraiment, de collaborer avec eux. Moindre de choses, il faut les appeler pour les informer. Si vous voyez des étrangers que vous doutez sur eux, vraiment, il faut les appeler pour leur dire. Mais les FDS, là, vraiment, si on les informe à temps, avec toutes les informations, à cette allure, vraiment, auparavant, tu vas informer. Il y a tellement de protocoles, mais maintenant, c'est les autorités, c'est les FDS qui prennent le pouvoir. Maintenant, dès que tu l'informes vraiment, ils sont prêts à agir. Parce qu'il y a des numéros qui circulent dans les radios. On l'appelle ça gratuit. Tu appelles, tu les informes. Moindre de choses. Même si c'est un petit enfant ou bien une petite fille, vraiment, si vous vous doutez sur elle, il faut les informer. Ils sont prêts à.
L'antenne de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants d'Arlit a présenté hier après-midi un lot de briques de cannabis saisi au départemental. Les détails avec le procureur du tribunal de grande instance d'Arlit, Zachary Mamansani, au micro de Gungouma Mandantani.
À travers les renseignements reçus, on a pu remonter les informations jusqu'à la source et mettre la main sur le propriétaire des bagages. On a arrêté une seule personne, un enfant élève âgé de 17 ans et qui est en classe de 4e. Il avait deux complices qui sont présentement en fuite et recherchés activement. On a saisi 78 briques de chanvre indien, près de 70,48 kg. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 4 millions de francs CFA.
« Du sport dans ce journal, la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2024 s'est achevée hier 24 janvier. À l'issue du premier tour, 16 pays sont qualifiés au 8e de finale. Le technicien de football Lawali Garba nous parle des performances des pays qualifiés. Il est au micro de Salamou Kadri.
Cette phase de poule, c'est l'une des meilleures depuis les différentes CAN passées. Pour preuve, rien qu'au cours de cette phase de poule, 89 buts ont été marqués. On se rappelle, en 2021, il n'y a que 68 buts qui ont été marqués. Et aussi, dans cette phase de poule, il n'y a eu que 3 matchs nuls, 3-0-0. Mali, Namibie, Afrique du Sud, Tunisie, Tanzanie, République démocratique du Congo. C'est dire que lors de cette phase, au niveau des pronostics, dans la course finale, deux catégories d'équipes. Il y a les traditionnels favoris qui sont le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun et l'Égypte. Il y a les outsiders qui ont montré de très belles prestations dans la phase des poules, notamment la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, l'Angola, le Cap-Vert. Cette CAN-là vraiment a été très équilibrée et très bien disputée.
Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. Le Sahel au sens large couvre jusqu'à 9 États africains. Les changements climatiques jouent un rôle important dans l'expansion du terrorisme dans certains pays du Sahel. Selon les experts, les comprendre et les canaliser pourrait contribuer à en réduire l'impact. Ce dossier de Fadel Alou clarifie la relation qui peut exister entre les changements climatiques et le terrorisme au Sahel.
Les conséquences du changement climatique sont en elles-mêmes une forme de violence pour la population qui vit chaque année les inondations, les sécheresses, selon le géographe Stéphane Ondoze.
En réalité, les conséquences du changement climatique sont déjà en soi facteurs d'instabilité et de violence. Lorsque la sécheresse, les inondations et j'en passe rencontrent des sociétés humaines vulnérables, car en proie à la guerre, à la malgouvernance, à la pauvreté, son impact dévastateur prend une toute autre ampleur.
Cette ampleur est dû à l'accroissement de la concurrence sur les ressources qui crée les conflits et favorise la radicalisation et la prolifération des groupes armés, explique le géographe.
C'est ce qui va favoriser la compétition des ressources, notamment en eau, nourriture, qu'importe, qui peut là encore exacerber les tensions sociales et donc la violence, et conduire donc à des conflits entre des communautés qui dépendent de ces ressources. C'est dans ces moments de tension, de forte tension, que les inégalités se creusent, que prolifèrent les groupes armés, que prolifère la radicalisation et de brutalité. Les changements climatiques sont donc des facteurs aggravants dans le cas spécifique du Sahel.
La lutte contre le changement climatique et l'insécurité devient ainsi un double défi pour les gouvernements du Sahel.
La notion même de choix, elle devient vitale. Est-ce qu'il faut régler l'urgence sécuritaire qui pourrait avoir un impact plus ou moins immédiat? Ou il faut plutôt s'attaquer à l'urgence climatique, certes immédiate en cas de famine, mais qui demande un travail de longue haleine avec la nature et aussi avec les communautés locales?
Les politiques environnementales seules ne suffisent pas pour éradiquer le mal. Il faut impliquer davantage la société civile et les acteurs locaux, a martelé le géographe Stéphane Ondoze.
Les politiques environnementales ne peuvent pas, à elles toutes seules, répondre au problème du terrorisme au Sahel.
Les sociétés civiles et les acteurs locaux jouent un rôle essentiel. C'est en investissant dans les ressources humaines que les gouvernements du Sahel peuvent créer les conditions nécessaires pour une paix et une stabilité durable. Dans la mise en place des politiques environnementales efficaces pour lutter contre le terrorisme au Sahel, ces groupes sociaux ont une place prépondérante.
C'est pourquoi des projets comme la Grande Muraille Verte qui vise à reboiser une bande de 8000 km de long et 15000 km de large le long du Sahel s'appuient sur ces acteurs locaux, a conclu le géographe Stéphane Ondoze.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours au rythme du Niger. Nos programmes continuent avec l'édition en Tamasheq.